Bonjour et bonne fête de l'indépendance à tous les Centrafricains d'ici et d'ailleurs. 13 août 1960, 13 août 2022, voilà 62 ans, jour pour jour que la République centrafricaine a accédé à la souveraineté internationale. Elle est libre de ses mouvements, de la gestion de ses richesses. Bref, le pays n'est plus sous domination coloniale. Cependant, la question que l'on se pose 62 ans après, que devient la République centrafricaine, jadis Oubangui Chari? Analyse, critique et suggestion dans ce débat d'aujourd'hui. Et pour en parler, je reçois Monsieur Paul Cressant Beniga, porte-parole du groupe de travail de la société civile et docteur en sciences politiques. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Émile Gore-Raymond Nakombo, maire de Bangui et ancien candidat à la présidentielle. Monsieur Nakombo, bonjour et bonne fête à vous.
Bonjour, bonne fête.
Martin Ziguele, bonjour.
Bonjour.
Président du mouvement de libération du peuple centrafricain et ancien premier ministre. Armand Nguengendi, c'est moi une fois de plus. Bonjour à toutes et à tous. Si vous venez de prendre le train en marche, vous êtes dans le débat politique du premier média centrafricain, Radio Ndekeluka.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Le débat politique sur Radio Ndekeluka, ouvrant cette discussion démocratique avec les mots qui minent le pays. De prime abord, on va parler du contrat social, la capacité des politiques depuis 1960 à répondre aux besoins vitaux de la population. Messieurs, autour de cette table, prenons à présent le premier volet consacré à l'eau. L'eau, c'est la vie, mais il est difficile pour la population d'avoir de l'eau potable. 62 ans après, pourquoi cette situation ne s'améliore pas? D'abord, à vous, Monsieur Paul Cressant Beniga.
Merci, Armando. Je dois dire toute la joie qui est la mienne de me retrouver autour de ce plateau avec le président Ziguele et Monsieur Nakombo, le maire de la ville de Bangui. C'est un débat fort intéressant parce que c'est un débat qui nous permettra de comprendre les difficultés auxquelles l'État centrafricain est confronté depuis près de 5-6 décennies. Important aussi, et je suis de ceux qui pensent qu'au-delà de ce genre de débat dans les stations de radio, il faut également les organiser dans les amphithéâtres parce que ça permet effectivement d'enrichir davantage le débat. Ceci étant, la question que vous m'avez posée est une colle parce que ça nous permet de jeter un regard dans le rétroviseur pour voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait et pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Voyez-vous, déjà, vous avez évoqué dans vos propos liminaires que depuis 60 ans, nous sommes confrontés à des difficultés au plan social puisque vous avez évoqué la question d'accès à l'eau. Et je vais dire ici que l'État centrafricain, déjà, au sortir de l'indépendance, a été un État qui a été construit avec un projet inachevé, avec un projet politique inachevé. Ça, c'est extrêmement important à le souligner. Mais aussi et surtout dans un contexte marqué par des crises, par des conflits. Ce qui fait en sorte qu'il est difficile d'identifier le projet, les projets de développement en République centrafricaine. Je dis que ça n'existe pas. Mais l'impression qui se dégage généralement, c'est que les projets de développement en République centrafricaine sont davantage liés au charisme des leaders.
D'une part.
Non, pas d'une part. Sont davantage liés au charisme des leaders. Alors qu'on aimerait plutôt que ce soit porté par des institutions. Je vous donne des exemples factuels. Vous prenez le cas, par exemple, de l'université de Bangui. On nous l'a dit. Que l'université de Bangui avait une capacité bien définie lorsqu'elle a été construite par un homme que nous connaissons tous, Bokassa. Près de 3 décennies après, qu'est-ce qui est devenu l'université de Bangui? Il y a un déficit en termes de vision de ce point de vue-là. Quand vous prenez la SODECA, quand la SODECA a été mise en place, il y avait un nombre bien déterminé d'habitants de la ville de Bangui et également dans l'arrière-pays, là où les infrastructures de SODECA ont été construites. Aujourd'hui, en termes de la démographie, vous vous rendez compte que les habitants de la ville de Bangui, l'effectif a considérablement augmenté. En revanche, en termes de politique publique concernant l'accès à l'eau, il n'y a pas une nette amélioration. Et donc, à partir de ce moment-là, vous voyez que ce ne sont pas les institutions qui portent ces projets de développement, mais généralement, ces projets de développement sont liés au charisme d'un leader. Et lorsque ce leader
charisme
n'est pas là...
Charisme de leader, de vision, c'est ce que vous voulez dire?
Oui, je parle de la vision, bien évidemment. Et donc, à partir de ce moment, parfois, lorsque le leader n'est pas là, on constate tout d'un coup un dysfonctionnement au niveau de la bonne marche des infrastructures. Et à cela s'ajoute un élément qui me paraît aussi fondamental, c'est le fait aujourd'hui que la République centrafricaine, qu'on le veuille ou pas, est un État qui est construit dans une dynamique de violence. Ce qui fait en sorte qu'en termes de stabilité, on n'a pas cette stabilité-là. Même en termes d'accalmie, c'est des accalmies de façade. Ce qui fait en sorte que penser le développement de la République centrafricaine est un exercice extrêmement compliqué si on ne réponse pas l'État centrafricain.
On donne la parole à M. Émile Gros-Raymond-Akombo sur la situation. L'eau potable depuis 1960, c'est un peu difficile aux centrafricains d'avoir l'eau potable, qui est d'ailleurs une denrée pour la survie d'un être humain.
Je voulais tout d'abord remercier Nekeluka pour m'avoir convié à ce débat démocratique, à ce débat de citoyens. Nous ne pouvons pas parler de l'eau sans faire référence au passé. Et quand vous prenez la République centrafricaine, j'ai essayé de noter sous mes yeux pour simplement vous dire que nous avons géré jusqu'ici souvent sans boussole. De 1958 à 2022, la République centrafricaine compte 26 premiers ministres depuis Boganda à Moloa et 55 gouvernements après l'indépendance. Vous voyez, alors il y a eu le gouvernement de transition, Boganda, Gumba. Nous avons eu la Première République en 1960, David Akko, Premier ministre domitien. Ça, c'est après, on a eu l'Empire centrafricain, Patassé, qui était Premier ministre, Maïdou également, de 1972 à 1979. Deuxième République, Premier ministre Ayando, et le Boudère, Bozanga, de 1979 à 1980-81. Troisième République, Premier ministre Édouard Franck, Timothée Malindoma, Derrand Lakwé, de 1991 à 1993. Et nous avons la 4e République, Jean-Luc Mandaba, Koyambounou, Ngoupandé, Bézira Bria, Dole Guélé, Martin Ziguélé, mon frère qui est là, Abel Ngumba, Gambalé, de 1993 à 2005. La 5e République, nous avons doté Faustin Archange Touadéra, Nicolas Tiangaï, Nzapayeke, Kamoun, de 2005 à 2016. Aujourd'hui, de 2016, la 6e République, à 2022, nous avons eu Sarangi, nous avons eu Grébada, Dondra et Moloa. Vous voyez ? Alors, tout cela veut dire tout simplement que est-ce de toutes ces successions, est-ce qu'il y a eu un suivi ? Est-ce qu'il y a des annales qui font de telle sorte qu'il y a un passage de pouvoir entre deux gouvernements, et ce, on passe également les intérêts, les préoccupations socio-économiques et culturelles pour que, qu'il n'y ait pas un arrêt, parce que nous avons toujours géré des intrigues de personne à personne. Vous voyez, Martin Ziguélé, il a réussi son gouvernement, et maintenant celui qui le remplace dit c'est Martin Ziguélé, je ne vais pas faire comme lui. Au lieu de pousser, d'améliorer, continuer ce que Martin Ziguélé a fait, la personne voudrait bien mieux faire, même faire tabula rasa, table rase de ce que Martin Ziguélé a fait. Alors quand on prend l'eau, ça c'est un problème qui est récurrent chez nous. Vous voyez, le problème d'eau, nous parlons principalement de la ville de Bangui, qui, on peut dire, dotée peut-être pas à 20% de sa capacité, 20% de population qui bénéficie de l'eau. Et quand on parle de province, c'est évanescent, inexistant. Vous voyez, ce secteur-là évanescent. Alors, ici, c'est d'impliquer plutôt ceux qui sont bénéficiaires de cette distribution d'eau, ceux qui sont des demandeurs. Il faut qu'ils soient associés à la politique de l'eau. Vous voyez, à la politique de l'eau. Jusqu'ici, nous avons eu Sodeca, comme vous le dites. Sodeca était sous la mairie. Quand vous voyez les installations de Sodeca, c'est les propriétés de la mairie de Bangui. Alors aujourd'hui, l'État a dessaisi la mairie pour créer une structure, un patrimoine. D'abord, c'était une société d'économics. Ensuite, il y a eu une société de patrimoine et une société de gestion. Aujourd'hui, nous avons Sodeca. Mais est-ce Sodeca qui a le monopole ? Et souvent, quand on a le monopole, on doit normalement mieux faire. Vous voyez ? Quand on a le monopole, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a pas de concurrence. Vous voyez ? Alors, donc, ici, c'est un problème qu'il faut traiter à bras le corps et faire de telle sorte que ça devienne une des priorités, des priorités. L'eau, c'est la vie. Vous voyez ? Alors, nous sommes plus versés à attendre la main des financements extérieurs, vous voyez, de la communauté internationale. Est-ce que c'est fait comme ça ? Quand vous ne produisez, vous consommez ce que quelqu'un d'autre produit, vous êtes en quelque sorte son esclave. Vous voyez, vous dépendez de cette personne-là. Mais nous dépendons trop de l'extérieur. Faut-il pas qu'on remette sur la table une...
Et c'est la question principale. Un modèle. On va y revenir, voilà, pour voir le problème, comme le décor a été déjà posé. Quelle solution pour pallier cette difficulté ? Monsieur Martin Ziguélé, comme tout le monde ici, on vous aurait aussi 5 minutes pour présenter la situation de l'eau potable depuis 60 ans aujourd'hui. C'est un peu difficile, hein, cette denrée, pour que les Centrafricains, à l'intérieur du pays, dans tout le pays, puissent avoir de l'eau potable.
Je vous vous remercie. Je voudrais également souhaiter une bonne fête de l'indépendance. D'abord à mes frères ici présents, co-débatteurs, et à vous-même.
Merci beaucoup.
Tous vos auditeurs, toutes vos auditrices sur toute l'étendue de notre pays et à l'extérieur. Et je voudrais dire qu'il n'y a pas une situation qui soit issue d'une génération spontanée. Ce n'est pas comme un champignon qui pousse et le matin vous voyez le champignon. Non. Tout problème a une histoire. Et lorsque vous parlez des infrastructures en général en République centrafricaine, ancienne Oubangui-Chari, il ne faut pas oublier que l'Oubangui-Chari et le Tchad, c'était les dernières colonies qui ont été explorées par les Français. Et lorsqu'ils sont arrivés en Oubangui-Chari au Tchad, tous les crédits d'investissement étaient épuisés. C'est pour ça qu'on a confié la gestion de l'Oubangui-Chari, aujourd'hui Centrafrique, et le Tchad à des sociétés concessionnaires, des compagnies commerciales dont l'objectif c'était de faire du profit. Donc quand votre objectif c'est de faire du profit, vous n'investissez pas pour du social. Donc c'est pour ça que sur le plan historique, vous prenez l'ensemble des anciennes colonies françaises d'Afrique. Et d'ailleurs, le Tchad et la RCA, ancienne Oubangui-Chari, sont les deux seuls pays qui n'ont ni chemin de fer, ni port. Parce qu'il n'y avait plus de crédit pour le construire. Alors que les colonisateurs en avaient besoin pour faire sortir la marchandise, etc. Et construire des chemins de fer, construire des ports, construire des aéroports et des aérodromes à l'intérieur du pays, ce n'était pas ni la vocation, ni la volonté, ni les capacités, ni n'entraîne pas dans les capacités des compagnies concessionnaires. Il faut camper cette situation historique. Donc nous sommes arrivés à l'indépendance sans infrastructure collective digne de ce nom. Et donc c'est nous, génération Centrafrique indépendante, qui devions prendre en bras le corps cette situation. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui a été fait, c'est que l'eau comme l'électricité, qui sont des facteurs de production, facteurs essentiels de production, c'est-à-dire ce sont ces éléments-là qui entrent dans le processus de développement, ont été négligés. Et c'est pour ça que les investissements pour renforcer les capacités, les infrastructures dans le secteur de l'eau comme de l'électricité, ont été négligés. Vous parlez de l'eau. L'eau, c'était la Société nationale des eaux et comme disait M. le maire, c'était le patrimoine de la mairie de Bangui. Et ça inscrit déjà la vision à l'époque. La vision à l'époque, c'est que l'eau devait uniquement être disponible pour ceux de la capitale, pas pour l'intérieur du pays. Et il a fallu que la SNE soit nationalisée pour que, suite à une politique volontariste de Bokassa, dont parlait Christian tout à l'heure, on a créé, quand nous on était à l'école primaire ou au collège, on a créé ex nihilo des services d'eau en province. Mais l'eau, comme l'électricité, ça veut dire des investissements qui se chiffrent en milliards. Ces investissements n'ont jamais suivi. Ces investissements n'ont jamais suivi. Pourquoi ? Parce que parfois, il y avait des problèmes de mobilisation de ressources internes et à cause de nos liens erratiques avec la communauté financière internationale, nous n'avons jamais eu le train d'investissement continu et soutenu pour que nous ayons des sociétés d'eau qui distribuent l'eau dans tout le pays. C'est ça la réalité. Donc, vous avez parlé de solutions. Les solutions existent. Les solutions existent. Mais il faut savoir que pour améliorer un processus, il faut avoir du capital financier, du capital humain et du capital physique. Il faut ces trois conditions-là pour faire des investissements et mettre à la disposition de la population le service, qu'il soit l'eau, qu'il soit l'électricité, qu'il soit la santé, qu'il soit l'éducation. Donc je voulais le dire pour dire que il n'est pas trop tard pour bien faire, mais il ne faut pas se tromper d'instrument pour arriver à faire face à cette situation. Même à Bangui, qui est la ville privilégiée depuis l'indépendance dans une vision, j'allais dire coloniale ou néocoloniale, de la répartition des biens et des services sur l'espace national, même Bangui aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que Bangui est vraiment bien desservi en matière d'eau. Et donc si vous voyez l'intérieur du pays, c'est pire, j'allais dire. Et pourtant, que vous soyez à Birao, où pendant la saison de pluie, l'inondation couvre la zone pendant 6 mois, ou que vous soyez à Kapou, ici en allant vers Mbaïki, l'eau est à fleur de peau en ce mois d'août, à fleur de terre. Vous creusez moins d'un mètre, vous trouvez de l'eau. Donc, ce qui manque, c'est le chaînon manquant, ce sont les infrastructures, c'est l'argent pour faire marcher toute cette machine.
Mais maintenant,
et les hommes et les femmes.
Vous voudrez bien aborder la partie sur ce volet de la solution qu'il faut. C'est vrai, nous avons un problème, mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir que les investissements ne tombent pas du ciel. Ce n'est pas parce que nous voulons de l'eau que nous aurons de l'eau. Si nous voulons de l'eau, il faut investir. Il faut avoir de l'argent, si vous voulez. Cet argent, on le trouve où? Ce n'est pas dans le budget de l'État qu'on va le trouver. On le trouvera soit par l'actionnariat populaire, c'est-à-dire en demandant aux Centrafricains de mettre de l'eau à la poche. C'est-à-dire, au lieu, par exemple, que la Sodeca soit une société d'État, on dirait que c'est une société nationale.
Qu'est-ce que ça veut dire national? Ça veut dire que l'État apporte des capitaux, met des centrafricains, hommes et femmes, vous, moi, chrétien, monsieur le maire, notre frère, le technicien, chacun peut acheter des actions de Sodeca pour 20 000, pour 30 000, pour 1 million, selon ses moyens. Et c'est ça qui donnera à la Sodeca la masse financière critique qui lui permettra de creuser des canalisations, d'avoir des usines de pompage, de traitement d'eau, d'avoir le groupe électrogène ou même des centrales électriques pour pomper l'eau et distribuer. Déjà dans Bangui, qui est passé de moins de 100 000 habitants à l'indépendance à près de 2 millions d'habitants aujourd'hui. Les infrastructures n'ont pas suivi. Et quand vous prenez les villes, les RCA, la croissance est la même. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de villes en Centrafrique de plus de 50 000 habitants qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans.
Et
toutes ces personnes ont besoin d'eau. Donc, le processus d'investissement, c'est l'accumulation de capital. Comment l'accumuler? Soit par l'actionnariat public, soit par les finances de l'État, ça c'est très difficile, dans le soit par les appuis extérieurs. Mais les appuis extérieurs ne peuvent pas être stratégiquement ce sur quoi il faut s'appuyer. Donc moi, ma vision à moi, c'est l'actionnariat populaire, c'est-à-dire chacun d'entre nous doit mettre la main à la pâte pour que nous
puissions avoir... Paul Cressan-Benega, solution, manque d'eau potable, qu'est-ce qu'il faut
faire?
J'ai
pas envie de contredire M. Ziguélé, seulement je trouve que la solution qu'il a prônée est une solution intermédiaire. Parce que de mon point de vue, il faut nécessairement une vision. Cette solution, je suis entièrement d'avis avec, mais ça, pour moi, ça reste une solution intermédiaire parce qu'il faut une vision. Mais une vision qui ne doit pas être portée par un homme, mais par nos institutions. Et je veux faire une petite digression avant de revenir. Je vous donne des exemples simples. Notre pays est confronté à des séries de conflits. Et nous avons accueilli sur notre sol de nombreuses organisations non gouvernementales. Et nous ne sommes pas les premiers, et je prends en témoin le président Ziguélé, monsieur le maire, nous ne sommes pas les premiers à faire l'expérience. Dans certains pays, lorsque vous recevez des organisations non gouvernementales, elles ont généralement ce qu'on appelle un cahier de charges, qui est défini aussi bien par le gouvernement et ces organisations-là. Et il y a un suivi qui est fait. Ce qui fait en sorte que quand ces organisations sont amenés à plier bagages, vous avez ce qu'on appelle le transfert de compétences, mais vous bénéficiez également des infrastructures qui sont généralement réalisées par ces organisations. Prenons ne serait-ce que le cas de la République centrafricaine dans le domaine de la santé, pour ne citer que ce cas-là. Certaines organisations non gouvernementales ont pour mandat de venir construire et non de venir louer. Elles ont pour mandat de venir construire. Mais quand ces organisations ont un contact avec nos institutions, tout change. Tout bascule. On les voit en train de louer dans les quartiers, réaliser des micro-projets à la limite. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie simplement c'est qu'on a une absence de vision. Le président Martin a dit il faut construire les infrastructures. Je suis entièrement d'avis. Il faut remplacer les ressources humaines. Je suis entièrement d'avis. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas une vision incarnée par les institutions, je n'ai pas dit par les hommes, à partir de ce moment-là, on n'y arrivera pas. Je donne quelques exemples. Monsieur le maire est là, moi je vais le titiller. Un jour, j'ai vu sur la plateforme, sur le compte Facebook de la mairie, un projet gagné par le maire, ici présent, pour la réalisation, la construction des forages dans la ville de Bangui. Et moi, j'ai commenté, j'ai dit, c'est bien beau. Mais pour moi, ce ne sont pas des solutions durables, c'est des palliatifs. Pour deux raisons. La première, aujourd'hui, au 21e siècle, parler du forage dans une capitale, ça gêne. Pour moi, c'est un palliatif. Nous voulons également nous laver dans une douche moderne. Nous voulons également bénéficier d'un certain confort que l'État nous donne. Si aujourd'hui, au 21e siècle, on est encore en train de parler des forages dans la capitale, ça pose problème. Mais je comprends, à défaut du cheval, on grimpe l'âne. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas encourager. Deuxièmement, quand on parle des infrastructures ici, est-ce que vous savez, par exemple, que nous sommes en déficit de châteaux d'eau? Ne serait-ce que pour conserver et distribuer dans la ville de Bangui, les zones qui sont, je ne sais pas si on peut appeler ça les zones montagneuses, l'expression n'est pas appropriée. Vous prenez par exemple des quartiers comme Gobongo, où il y a les collines. Les quartiers comme Bouérab, où il y a les collines, ça devient extrêmement difficile que l'eau puisse monter. Mais quelle est cette politique qui vise par exemple, qui refuse la décentralisation? On aurait pu avoir par arrondissement des châteaux d'eau. Ça permettrait par exemple de résoudre le problème. Donc il y a un manque de vision et on est dans le palliatif. Or aujourd'hui, il faut aller vers les solutions durables.
On va écouter monsieur le maire sur cette question. Plus de 2 300 000 habitants qui n'ont pas aussi l'accès à l'eau potable en République centrafricaine et comprennent également l'accès à l'hygiène et l'assainissement. Les chiffres de l'ONG Relief Web sont inquiétants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier, pour éviter le pire, selon vous? Toujours dans le cadre de l'eau potable.
Oui, j'avais dit.
On est dans la solution, la proposition.
Dans ma première intervention, que cette question devait être traitée en y associant les bénéficiaires, donc les populations. Pourquoi ? Parce que c'est une tradition, consommer de l'eau. Et cette tradition doit puiser sa substance dans des règles bien définies. Vous voyez, l'eau n'est pas un produit en abondance d'une manière indéfinie. Donc, il faut savoir la recueillir, il faut savoir la protéger du point de vue, parce que l'eau va de pair avec l'assainissement. Consommer l'eau, c'est également aussi faire de telle sorte que l'eau soit préservée pour les générations futures. Alors, cette notion, nous devons l'inculquer à nos populations pour éviter le gaspillage de l'eau. L'eau est souvent polluée. Ça, il faut éduquer aussi la population.
Mais est-ce que l'eau potable existe normalement pour parler de gaspillage ?
Non, bien sûr, bien sûr. Même, regardez même ce qui se passe aujourd'hui avec Sodeca. Les gens qui ont des tuyaux, les gens qui ont des fontaines, ils laissent couler d'une manière indéterminée l'eau. Voyez, déjà ici, il faut conscientiser les gens. Il faut commencer quelque part. Si vous ne commencez pas, les gens ne comprendront jamais comment gérer l'eau. Vous voyez, il y a trop de pression sur l'eau. Alors, nous sommes dans une zone de pluie sur 6 mois et de saison plus ou moins sèche sur 6 mois. Il faut apprendre à nos populations à recueillir l'eau, à préserver l'eau, même l'eau de pluie. Tout le monde voudrait bien avoir l'eau de Sodeca, mais ce n'est pas possible. Ceux qui n'ont pas l'eau de Sodeca, qu'est-ce qu'ils font avec l'eau de pluie? Il faut savoir les recueillir et les conserver. Il faut l'apprendre à nos populations.
On parle de l'eau potable.
Oui, mais bien sûr. L'eau de pluie, elle est potable. Elle est potable, elle est buvable. Elle n'est pas... elle est buvable, l'eau de pluie. Vous voyez ? Alors donc, ici, nous devons impliquer les bénéficiaires, les impliquer en les éduquant par rapport à l'eau. L'eau ne se traite pas d'une manière comme ça. L'eau doit être recueillie. Vous voyez, quand l'eau vient des flancs de la colline, il faut savoir recueillir cette eau-là. Aujourd'hui, nous avons, au niveau de la mairie de Bangui, négocié dans le cadre du plan énergétique de la ville de Bangui, ce qu'on appelle le centre d'épuration des eaux usées de l'hôpital général. Et nous avons fait don d'un de ces centres-là au laboratoire Lavoisier. Pourquoi ? C'est pour préserver l'eau. Quand l'hôpital utilise de l'eau pour laver les malades, pour laver les plaies, pour laver les instruments biomédicaux, il faut que cette eau-là soit recueillie et serve à quelque chose. Et ce centre est fait pour ça. Ce centre est fait pour recueillir de l'eau usée, afin d'utiliser cette eau-là. Au lieu qu'on prenne de l'eau potable pour arroser le jardin, on prend cette eau-là pour arroser, qui est plus ou moins, dans certains pays, ils le font, ils rendent cette eau-là potable, consommable. Mais ici, on se dit que cette eau-là peut servir pour arroser, pour laver et pour nettoyer, vous voyez.
Je vous comprends, puisque vous êtes à Bangui, vous parlez seulement à Bangui.
Oui.
On est en train de parler de toute l'étendue du territoire. Monsieur, vous voulez rebondir très rapidement pour le Christian Benigard.
Oui, naturellement.
Pour qu'on boucle ce chapitre.
Je ne suis pas d'accord avec Monsieur Nakombo. Parce que je dis ici que nous sommes dans un pays où nous aimons le palliatif. Nous aimons véritablement le palliatif. Et ce qui nous amène à faire du saupoudrage au lieu de traiter les questions de fond. Lorsqu'il dit que c'est un problème de gestion, il faut sensibiliser la population. Monsieur le maire, il faut qu'il y en ait assez. Il faut d'abord qu'il y ait de l'eau qui coule dans les robinets pour parler de la gestion. Quand vous dites au niveau des fontaines, ça coule, parfois c'est un problème de maintenance. Et parfois, quand vous circulez, vous allez voir que les conduits d'eau ont des problèmes.
Non, je dis qu'au niveau des fontaines, il y a du gaspillage. Il faut apprendre aux gens à bien gérer l'eau au niveau de la fontaine.
Mais encore qu'il faut qu'il y ait de l'eau à suffisance dans les fontaines. Vous allez voir, si vous faites le tour aujourd'hui des quartiers de Bangui, vous verrez qu'au niveau de certaines fontaines, ça fait peut-être 3-4 mois où l'eau ne coule pas. Ça, c'est Bangui. Et il en a évoqué tout à l'heure. Il y a l'arrière-pays. Moi, le problème, il est clair. Il a dit ici que le président Martin a dit tout à l'heure ici que pendant la saison des pluies, il suffit de creuser à moins d'un mètre. Bon, il exagérait un peu. Vous trouverez de l'eau.
On est d'accord. Il a raison.
Non, pas moins d'un mètre quand même. Pas moins d'un mètre quand même.
Selon les localités.
Oui, maintenant, lorsque nous avons en abondance, si la nature nous a gâtés avec de l'eau, le problème qui se pose, c'est le problème de production et de distribution. Nous n'avons pas les capacités. Aujourd'hui, l'État centrafricain n'a pas les capacités de produire et de distribuer. Mais pourquoi nous n'avons pas cette capacité ? Il a évoqué les questions de moyens. Mais au-delà de moyens, c'est parce que nous n'avons pas véritablement la volonté de le faire.
C'est là où je...
Oui, je donne des exemples simples. Si vous avez réussi à négocier des financements pour réaliser des forages, je crois que vous pouvez réussir à négocier des financements pour augmenter la capacité de production et de distribution d'eau au niveau de la SODECA. Donc, je pense qu'il faut sortir du palliatif et voir le problème dans le fond.
Monsieur Ziguele, quelques secondes.
Oui, je pense qu'avec Monsieur Beninga, il n'y a pas de
divergence.
Non, il n'y a pas de divergence fondamentale, conceptuelle. Parce qu'en fait, quand je parle d'infrastructure, c'est une analyse qui découle d'une vision. Quand je parle d'infrastructure, quand je parle de capital physique, de capital humain, de capital financier, ça découle d'une vision. La vision, c'est de dire que ce pays-là est arrivé à l'indépendance, parce que c'est ça le thème du débat, avec moins d'infrastructures qu'ailleurs, parce que c'était les dernières colonies à être explorées, si vous voulez, et à être dotées d'infrastructures. Et donc, et ces infrastructures devraient être assurées par des entreprises commerciales, dont la vocation n'est pas, par définition, de créer des infrastructures sociales. Donc, nous sommes arrivés avec ce déficit-là, l'indépendance. Et qu'est-ce que nous avons observé depuis l'indépendance? C'est qu'il n'y a pas eu une politique volontariste de renforcer ces facteurs de production-là. C'est-à-dire de créer une société nationale. Je préfère le terme de société nationale à société d'État, parce que si vous confiez à l'État seul la responsabilité d'avoir des entreprises performantes pour produire l'eau, l'électricité, l'État ne pourra pas, parce que l'État est limité par rapport au budget. Donc ça, c'est un débat vraiment technique, mais je reviens à la démarche de la vision. La vision, c'est que tous les Centrafricains, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, aient de l'eau potable en quantité et en qualité suffisante et à tout moment. Donc, nous avons la matière première, l'eau, qui est souterraine ou bien les rivières, les cours d'eau, l'hydrographie centrafricaine. Tout le monde sait que la RCA abrite deux bassins, le bassin du Congo et le bassin du Tchad, et que nous sommes un château d'eau. C'est comme la fêtière d'une maison, nous donnons l'eau à tous ces pays voisins. Mais, donc, le problème d'eau ne se pose pas, la matière première ne se pose pas. Le problème, même en saison sèche, comme je l'ai dit, il faut creuser peut-être plus d'un mètre, deux mètres, trois mètres, mais en tout cas, on trouvera de l'eau. Le problème, c'est de faire sortir cette eau-là, de la rendre potable, de la traiter, de la transporter, de la distribuer là où il y a les populations, en zone urbaine et en zone rurale, pour que chacun ait de l'eau potable. C'est la gageur. Donc il nous faut accumuler du capital. Comme disait Marx, l'accumulation du capital, c'est un processus qui est bien maîtrisé. Il faut le faire comment? Et si nous comptons uniquement sur les appuis extérieurs, nous risquons d'être dessus, parce que les appuis extérieurs sont liés à un certain nombre de conditionnalités, à l'existence d'un programme avec le fonds, etc. C'est compliqué.
Désolé, le
je
temps
ne dis pas que c'est exclu, mais c'est compliqué.
Les quelques secondes que je vous donne.
Voilà. Donc il faut compter sur l'actionnariat populaire. Il faut, comme l'a dit le maire, et c'est là où je rejoins le maire, il faut que ceux qui consomment et ceux qui produisent, il faut qu'ils arrivent à s'asseoir pour dire que c'est un sujet qui nous concerne tous. Comment on fait pour que chacun mette de l'eau dans la poche, de la main dans la poche, pour créer des structures avec les moyens suffisants pour distribuer
l'eau. Le volet électricité, je pense que c'est
voilà pour l'électricité.
C'est similaire, hein, c'est le même sujet.
Oui.
On va entamer maintenant le chapitre santé dans ce débat d'aujourd'hui. Je vous remets la parole pour 3 minutes, M. Ziguele, sur la situation sanitaire actuellement, ou le système sanitaire de la République centrafricaine après 62 ans d'indépendance.
Vous savez que dans ma vie professionnelle, je suis assureur. Donc quand vous me parlez de santé, je peux vous parler pendant des jours et des jours. La vision du pessimiste, c'est de dire le système de santé ne marche pas bien, et c'est vrai, ne marche pas bien, qu'il y a beaucoup d'attentes, etc. L'optimiste dira oui, mais on a quand même maintenant plusieurs centres de santé, des professeurs agrégés, des médecins en grande quantité, etc. etc. La vérité au milieu, comme pour l'eau, comme pour l'électricité. La santé, aujourd'hui, ce n'est pas un service, ce n'est pas un cadeau de l'État. La santé, c'est un droit. Mais lorsque vous parlez de droit, après, on fait comment? On regarde comment financer le système de santé. Le système de santé est plus lourd à financer que l'eau et l'électricité, qui sont des biens matériels. La santé, c'est un ensemble de services qu'on fournit à la population, qui comprend aussi bien les médicaments, les infrastructures médicales, que les hommes et les femmes qui doivent fournir les services de santé. Et tout cela doit se financer. Lorsque vous regardez tout cela, qui constitue des droits, nous revenons maintenant à ce qu'a dit Beninga Krishen, c'est que faire vivre un pays doit être précédé d'une vision. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? Qu'est-ce que nous voulons ou pouvons offrir à la population? Et si nous ne pouvons pas l'offrir à la population, comment nous faisons pour pouvoir offrir ces biens et ces services à la population? C'est la question de vision. Et elle est fondamentale. Et dans la démarche que je suis en train d'expliquer ici,
Ce n'est pas une démarche de procès de qui que ce soit. Mais je pense que les vrais débats que nous devrions avoir dans notre pays, c'est de savoir mais comment on fait pour avoir à disposition les moyens qui vont permettre aux Centrafricains de vivre dignement. C'est de ça qu'il s'agit. Comment on fait dans la situation actuelle, 62 ans après l'indépendance, quelles sont les mesures qu'on doit prendre concrètement ou quels sont les changements qu'on doit faire dans nos comportements ou dans nos démarches diverses et variées pour que les Centrafricains puissent avoir ce que Boganda a demandé, c'est-à-dire les cinq verbes du Messane, soigner, éduquer, nourrir, vêtir et loger. Parce que tous ces cinq triptyques-là, ces cinq verbes-là, induisent d'abord l'existence d'une vision globale du développement humain, ça c'est important, et puis nécessite des moyens. Et quand vous parlez de moyens, vous arrivez à la politique économique, à la politique budgétaire.
Mais pourquoi aujourd'hui, ceux qui nous avons eu l'indépendance ensemble ont fait pour évoluer un peu par rapport à la situation de la République africaine qui est toujours statu quo?
Non, je ne vais pas prétendre vraiment avec, je parle avec beaucoup d'humilité, je ne peux pas prétendre dire que si la RCA est dans cette situation, c'est dû à la faute de telle personne ou de telle chose. Je pense que notre problème, c'est que après l'indépendance, on n'a pas tout de suite mis en place et renforcé les institutions. Les institutions qui doivent accompagner la gouvernance publique. C'est Willy Brossaco qui a trouvé la solution. Il l'a dit il y a 40 ans. Il dit Ngoua Gweloko Aba.
Willy Brossaco Passy,
excusez-moi. Que le doyen Willy Brossaco m'excuse, mais je pensais à Willy Brossaco. Voilà. C'est Willy Brossaco qui l'a dit il y a plus de 40 ans. Ngoua Gweloko Aba. Les institutions, c'est comme le guidon d'un vélo. C'est pas le guidon qui fait rouler le vélo, c'est les roues. Mais le guidon, si vous n'avez pas de guidon, vous vous cassez la figure tout de suite, vous entrez dans la brousse. Donc, c'est l'absence de culture institutionnelle avec l'encadrement de la gouvernance qui ont fait que nous sommes passés, et les Centrafricains sont en grande partie responsables et complices. Nous avons toujours vécu dans l'esprit d'avoir un homme providentiel comme Boganda. Nous avons toujours eu dans la tête, dans notre subconscient, que nous allons avoir un homme providentiel comme Boganda qui va résoudre tous nos problèmes et nous allons passer d'un point de développement A à un point de développement Z. Ce qui n'existe pas. Il faut construire les institutions chaque jour. Il faut améliorer la gouvernance chaque jour. Il faut accumuler du capital chaque jour. Il faut investir dans les infrastructures chaque jour, dans la santé, dans l'éducation, pour avoir un pays qui se développe. C'est ce que les autres ont fait. Lorsque le président de la délégation, le maire, monsieur le maire Nakombo, a parlé de l'instabilité, c'est un aspect. Pourquoi il y a autant eu de gouvernements, de régimes, etc. Parce que les institutions ont toujours été des institutions qui n'ont pas joué leur rôle. Et la nature ayant horreur du vide, c'est l'exception qui est devenue la règle. C'est pour ça, et je m'arrête là, si vous prenez les 62 ans d'indépendance de la RCA, mais les périodes où il y avait des institutions qui ont essayé de jouer le rôle de contre-pouvoir, ça n'a pas dépassé 15 ans.
On va donner la parole à monsieur...
Et c'est là, à mon avis, que se situe le problème.
Oui, monsieur le maire, sur la situation, la question de la santé, les Centrafricains n'ont pas accès aux soins de santé intenses pour leur permettre de survivre. Quelle est la vraie vision pour vraiment arriver à une solution durable?
Je ne me détacherai jamais de ce que j'avais dit dès ma première intervention. Tout doit se faire d'une manière tripartite. Vous voyez, il y a la population, la société civile, qui fait partie de cette population pour moi. Vous avez les gouvernants et vous avez les collectivités territoriales. Dans beaucoup de pays, les collectivités territoriales, ce sont celles qu'on appelle les gouvernements locaux. Et ils sont engagés, en fait, c'est eux qui gèrent les aspects de la vie du concitoyen. Mais les aspects de la vie des concernés, c'est les cinq verbes de Boganda, vous voyez. Alors, on parle ici de contrat social également. Entre la population et les gouvernants, il faut qu'il y ait un contrat. Ce contrat, c'est quoi, hein? Il faut qu'ils adhèrent à ce contrat-là, la population. Mais une population qui n'est pas éclairée, une population qui n'a pas de background, c'est à ceux qui ont le background, les dirigeants, d'éduquer et de former cette population. Dans ce cas précis, je pense que le président Zigele ne va pas me démentir. Beaucoup de pays sont allés à appeler leur population à participer également au soutien sanitaire, en fait, par des prélèvements pour des gens plus ou moins nantis qui participent. Et c'est ainsi que ces pays sont arrivés à faire ce qu'on appelle la couverture universelle,
médicale universelle.
Mais c'est parce qu'il y a une vision.
Oui, bien sûr, bien sûr. La question
donc,
de... Je vais aborder
la question.
La question
de... Est-ce que les Centrafricains manquent de vision? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire?
Les Centrafricains ne manquent pas de vision. je continue à le dire que nous devons tous regarder dans la même direction et créer ce qu'on appelle la communauté de vision et d'action. Hein. Et cela n'a pas besoin d'obédience, cela n'a pas besoin de courant, cela a besoin que nous soyons tous engagés, chacun dans ce qu'il fait, que nous soyons citoyens dans ce que nous faisons, vous voyez, pour engager ce pays-là sur tous les chantiers. Vous ne pouvez pas appeler un médecin pour qu'il fasse la route, vous voyez. Et ce médecin, s'il est dans son cadre précis, et s'il y a l'institution, elle est forte, s'il y a un système, hein, qui est instauré, qui est conçu par tout le monde, on s'engouffre dans ce système, on ne fait que suivre parce que le système où il est, en plus de ça, et l'institution, elle est forte, tu ne viens pas parce que tu as ta pensée, tu as tes idées, tu viens parce qu'il y a un système qui t'aide à avancer. Vous voyez ? Alors, c'est pour cela que nous devons donner plus de poids, hein, aux entités, plus de poids aux institutions, plus de poids à ce que nous faisons du point de vue de groupe et d'ensemble, vous voyez. Tant que nous ne penserons pas à une vision d'ensemble, nous ne ferons pas long feu. Nous allons toujours nous attarder sur les fautes des autres, vous voyez. Alors, pour faire cela, il faut que tout le monde soit engagé au même moment. Que la société civile joue son rôle, que les populations soient encadrées, que les gouvernants acceptent aussi également de recueillir tout le monde et que qu'on engage toutes ces discussions, que l'opposition, parce qu'il est question aussi ici des centrafricains qui ne sont pas non seulement dans la majorité présidentielle, ou bien que l'opposition aussi soit partie prenante de ce passé. Ils sont centrafricains et qu'on note cet habit de politicien. Qu'on note cet habit de politicien pour engager quelque chose de nouveau, parce que le génie centrafricain ici doit ressortir pour que nous retrouvions, que nous reconnaissions dans ce que nous faisons. Alors, je me pose la question, sur ces questions, quel est le consensus du centrafricain? Le consensus, c'est le minimum d'entente entre deux parties. Quelle est l'entente des centrafricains? Nous sommes consensuels sur quel point? Nous sommes consensuels sur quelles valeurs, sur qu'est-ce qui engage les centrafricains. Vous voyez les États-Unis. Les États-Unis, ils se disent, nous, on veut être les tout premiers, les tout puissants du monde. Personne, que vous soyez du parti républicain ou démocrate, vous faites tout pour que les États-Unis soient toujours les États-Unis. Mais nous, les centrafricains, un autre consensus.
Monsieur Paul Cresson Beninga, sur le système sanitaire, quel commentaire faites-vous aujourd'hui
Je me réjouis que le président Dibigele m'emboîte le pas en évoquant l'aspect vision et institutionnel. Et je dois dire ici, hein, en plus de ce qui a été dit sur la vision, c'est que le secteur de la santé en République centrafricaine est pris en otage.
Par qui?
Par l'élite politique dirigeante, par les acteurs du secteur et par la démission collectif de la population. Je m'explique. Vous prenez par exemple, je donne deux cas pour l'élite politique dirigeante. Quand je parle de la vision tout à l'heure, allez au niveau de l'hôpital communautaire. Moi, je suis factuel. On est en train de construire, le MSF Belgique est en train de construire un centre de prise en charge des personnes atteintes de VIH-SIDA et pour les opérations de césarienne, je pense. Je dis qu'ils sont en train de construire dans l'enceinte de l'hôpital communautaire. Quand je vous disais tout à l'heure ici que quand les organisations non gouvernementales arrivent et qu'il y a une vision claire, a-t-on véritablement besoin de faire construire un centre de maternité ou de prise en charge dans l'enceinte de l'hôpital communautaire où on crée un autre espace? Quel est l'avantage lorsqu'on crée un autre espace? L'avantage, c'est qu'on va bénéficier d'une autre infrastructure et on va participer au désenclavement des centres de santé. Quelle est cette idée?
Tout n'est pas Bangui.
Tout n'est pas à Bangui. Et même si on veut le faire à Bangui, ce ne sont pas les espaces qui font défaut. Quelle est cette idée d'amener les partenaires à aller construire quelque chose qui ressemble, passez-moi l'expression, à des poulaillers là où c'est saturé? Et cette mentalité-là, vous allez la constater un peu partout. Je sors du cas de santé, allez au niveau du ministère, par exemple, de l'agriculture. Voyez les infrastructures qui sont en train d'être construites là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas faire une table rase et faire quelque chose de mieux? De construire des petits. Ça manque de vision. Ça, c'est au niveau de l'élite politique dirigeante. Deuxième élément, toujours au niveau de l'élite politique dirigeante.
Moi, je ne parlerai pas de manque de vision, mais de manque d'ambition.
Oui, tout ça à la fois. D'ambition tout peut-être. Ça à la fois. Et de volonté politique aussi. Voilà. Deuxième exemple, Armando, à ce niveau-là, il y a ce business d'évacuation sanitaire. Et les dirigeants qui sont là, ils savent quelque chose.
Non, moi, j'ai jamais...
Non, je dis, ils savent quelque chose parce que vous avez été président de la commission finance.
Oui, mais...
À un moment donné, vous voyez le budget. Oui. Vous voyez comment est-ce qu'on inscrit dans le budget les montants.
Mais attention, attention. Vous ne savez pas ce que la commission finance a fait pour
Non,
que,
je ne vous accuse pas, président.
Que... Non, 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 parce que quand vous dites...
Je dis, vous voyez au moins, vous savez quel montant
c'est pour éviter affecté. C'est pour éviter de laisser passer des propos qui peuvent prêter à confusion
oui.
dans la compréhension de ceux qui nous écoutent.
Oui, mais je finis.
La commission finance s'est battue bec et ongle. Et je parle sous le contrôle de mon aîné, le professeur Nadi Mamadou. Nous nous sommes battus pour qu'on ouvre rapidement les centres d'hémodialyse, les centres de prise en charge de soins, etc., pour diminuer les évacuations sanitaires qui coûtaient quand même 4 milliards CFA par an.
Donc,
nous avons fait notre part.
C'est fait là.
Tant mieux, président. Alors, quand vous voyez comment ça se fait, c'est des pratiques d'arnaque et d'escroquerie. Il y a certaines cliniques à l'étranger. Il y a une dont je tais le nom, au niveau de Tunisie. On évacue quotidiennement des fonctionnaires là-bas. Mais généralement, ceux qui s'occupent de ces évacuations-là. Mais c'est un marché de gré à gré entre ceux qui s'en occupent et les centres hospitaliers à l'extérieur. Maintenant, quand je dis l'élite politique a pris en otage, on soigne les dents, on soigne la dent, on soigne la langue, on soigne les pieds à coût de 17, 20, 30 millions à l'extérieur. Est-ce que ça ne peut pas participer à l'amélioration de nos plateaux techniques, profite à toute la population? Puisque une seule personne qui a mal à la dent va se soigner à l'extérieur, une seule personne qui a mal à la langue va se soigner à l'extérieur avec des sommes considérables. Ces sommes-là, on peut les mobiliser pour améliorer nos plateaux techniques, mais les gens n'en veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils tirent profit. Ils en tirent profit. Et ça, c'est parce que, effectivement, l'élite politique dirigeante a pris le secteur de la santé en otage.
Oui,
maintenant, au niveau des ressources humaines...
Prenez note, vous allez répondre, monsieur le maire. Vous allez répondre. Allez-y, monsieur.
Maintenant, au niveau des ressources humaines, notamment qualifiées, le secteur de la santé, quand vous allez, par exemple, dans les centres hospitaliers, les médecins, les infirmiers aussi ont pris le secteur de la santé en otage. Vous allez voir, par exemple, les cas d'urgence. Allez au niveau de nos centres hospitaliers, les cas d'accident et autres. Quand vous arrivez, si vous ne sortez pas de l'argent, vous n'aurez pas les premiers soins.
Vous mourrez.
Et parfois, vous sortez de l'argent, mais on ne vous donne pas les médicaments appropriés dans les pharmacies. On sert les médicaments dans les sacs à main. Et quand je parle de la démission collective de la population, c'est parce qu'on en voit et on n'en parle pas. On ne réagit pas. La normale est devenue normale. On est arrivé dans une situation où on banalise ce qui est anormal. C'est comme si ça fait partie du quotidien des Centrafricains. Et à partir de ce moment, nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive, que chacun reconnaisse sa part de responsabilité dans la dégradation de ce système de santé.
Une autre question, pour vous permettre de répondre, selon l'ONG américaine Contributors, l'expérience de vie moyenne des hommes en République centrafricaine est de 48 en 50 ans. L'expérience de vie moyenne, celle des femmes, est de 52 en 54 ans. Ce sont les données actuelles des 6 derniers mois de 2022. Quel commentaire faites-vous de cette situation, monsieur le maire?
Oui.
Je parlais tout à l'heure de l'expérience de vie.
Alors, je voudrais tout simplement dire à mon jeune que c'est vrai. Tout ce qu'il a dénoté, décrié ici, ça se vérifie au jour le jour. Mais vous savez, à ce niveau-là, comme il a si bien dit, il faut que tout le monde soit engagé, en commençant par les populations elles-mêmes qui sont victimes. Quand les dirigeants, je vois comment le ministre de la Santé, que je connais bien, fait, quand il a eu une information allant dans le sens qu'au niveau d'un centre, il y a un problème, il descend lui-même. Alors, ce que je veux relever ici, je veux dire simplement à mon jeune que les efforts sont faits, en fait. Il faut reconnaître ces efforts-là par le gouvernement par rapport aux évacuations. Il y a le centre de dialyse qui vient d'être inauguré et à l'IRM aussi. Beaucoup d'efforts sont faits. Mais j'étais à une discussion avec le...
Mais ces évacuations sanitaires,
s'il te plaît.
Sur ce point, ça vous va bien, vous me donnez quelques secondes. Les évacuations sanitaires, ça ne concerne pas beaucoup plus les Centrafricains lambda, ça vous le savez très bien. Beaucoup plus les responsables.
Les maires, je vous en prie. Je suis en train de dire là que... le gouvernement est en train de faire l'effort pour arrêter les évacuations sanitaires. Les efforts sont vraiment consentis là-dessus. C'est pour cela que ces centres-là sont créés et on vient d'inaugurer le centre
de hémodialyse.
Et il y a l'IRM qui est en construction également. Donc, les efforts sont faits. Il faut, ce que je veux que quand on critique, qu'on donne une brèche à ce qui est fait pour que les Centrafricains ne soient pas abattus. Quand on le fait comme ça, le débat n'est pas juste. Vous voyez ? Alors c'est pour ça que je dis simplement que par rapport
à l'espérance de vie,
non, par rapport au centre, je voyais le président, j'étais dans une discussion, dire à Saint-Égidio qu'il voulait avoir un centre ici à Bangui. Le président a dit, mais je préfère que vous sortiez de Bangui. Et le président lui-même a donné un endroit vers le kilomètre 22. Vous voyez, c'est pour vous dire que...
C'est pour le centre de Mondialise.
Non, pas de Mondialise. Pour répondre à mon jeune frère qui disait que...
Tout est centralisé à Bangui.
Mais les dirigeants, ils pensent. Vous voyez, les dirigeants, ils pensent. Je pense qu'ici, soyons tous engagés à faire ensemble.
Oui, M. Ziguele.
Oui, moi, je voulais dire que ce que M. Beninga a évoqué par rapport à la gestion des systèmes de santé, c'est la vérité.
Oui, je l'ai dit.
C'est la triste réalité.
J'ai reconnu.
Et c'est la vérité.
Oui.
Les populations, j'ai suivi vous sur vos antennes. Il y a eu un moment où vous avez fait un micro-baladeur sur les soins de santé dispensés dans les centres de santé. Et on a entendu des choses, mais vraiment inacceptables. C'est la vérité. Deuxièmement, c'est vrai également que par rapport aux évacuations sanitaires, il y a des institutions de la République qui refusent de faire une assurance maladie et qui préfèrent gérer par le service de personnel des évacuations sanitaires parce que, en contrepartie, ils reçoivent des pourboires. C'est notoire. Et ce que je dis, je peux le prouver. Troisièmement, la solution, comme M. le maire évoque des solutions, c'est l'introduction des contrats d'assurance dans le cadre de soit la Caisse nationale d'assurance maladie du personnel de l'État qui est en train d'être mise en place. Parce que lorsque vous avez une Caisse nationale d'assurance maladie, tous les actes médicaux, tout ce qui doit être fait dans ce cadre-là est passé au crible. Donc on ne peut pas évacuer quelqu'un parce qu'il est ministre et ne pas évacuer quelqu'un d'autre parce qu'il est ouvrier dans une entreprise à Berberati ou des choses comme ça.
Rares sont les cas.
Voilà. Donc il y aura une démocratisation du traitement parce que tout le monde sera sur le même sur l'égalité. Troisièmement, le chemin que nous devons emprunter, et c'est là où il y a quelque chose que le maire a dit est intéressant, il faut qu'on passe à la couverture maladie universelle. Tant que la gestion du système de santé ressemblera à une peau de panthère. Il y a des gens qui vont s'entendre pour vivre sur le dos des malades, si je m'explique ainsi. C'est une réalité. Maintenant, comment combattre dans la situation actuelle les abus ? On revient au fonctionnement des institutions. On revient au fonctionnement des institutions. Et on revient à la volonté politique. On revient à la vision des hommes dans ce pays-là. On a vu que ça soit sous le CMRN, sous Bokassa. Bokassa est arrivé à 7 heures à l'hôpital ou dans un ministère. Et il s'installait à l'entrée et il voyait les ministres arriver, etc. Tout le monde arrivait. Quand il a fait ça 3 fois, 4 fois, à 7 heures, tous les Centrafricains étaient au boulot. Ou Bokassa attendait 14 heures, il descendait dans un ministère. Alors que l'heure de travail allait jusqu'à 15h30. Et tout ce qui était parti, il répertoriait leur nom, etc. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation d'un pays où il ne suffit pas de s'asseoir et de dire, de faire des grands discours pour dire « Oui, nous allons faire la bonne gouvernance. » Il faut payer de sa personne. Il faut poser des actes. Il faut faire une politique qui materne même les Centrafricains pour essayer de redresser ces choses-là.
Oui, mais
je m'arrête là-dessus. La corruption dans le système de santé en Centrafrique est une réalité. Comment faire pour le combattre ? Ce ne sera pas une personne. Ce sera l'ensemble de la collectivité nationale dans ses différentes composantes en s'appuyant sur les institutions, n'est-ce pas ? Évidemment. Notamment la justice. Et je crois que ce qu'il a évoqué par rapport au ministre Somsé, je suis aussi d'accord avec lui parce que j'ai vu, j'ai entendu le ministre descendre, mais il ne pourra pas seul régler le problème parce que
ce sont
des habitudes ancrées. Ce n'est pas lui en tant qu'individu seul qui
peut le temps nous fait deux fois quelques secondes. Je vous en prie, 30 secondes, monsieur.
En fait, je voulais revenir sur le fait que le président Ziguele disait que pour la couverture maladie universelle de santé, il y a eu beaucoup de possibilités, mais les gens n'ont pas...
Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, il y a des institutions de la République à qui on a proposé, qui ont la possibilité de faire des contrats d'assurance maladie, qui contrôlent les soins, les évacuations sanitaires.
Ah, d'accord.
Que ces institutions ont refusé de souscrire des contrats d'assurance parce que ça permet aux services qui gèrent les ressources humaines d'évacuer qui veut
alors, à la tête du client. En fait, d'accord.
Faire un marché.
Parce que je voulais dire ici que quand le président attendait son investiture, moi, je suis arrivé, je l'ai rencontré avec quelqu'un de l'Union européenne. Le président a demandé qu'on le mette en contact avec le BIT pour parler de cette question-là. Et le président a poussé cette question-là très, très loin. Et moi aussi, dans mes contacts à l'extérieur, au sommet des maires d'Afrique, pose la question aussi pour avoir quelqu'un ou une entité qui puisse venir en Centrafrique pour commencer à négocier avec le gouvernement, et le gouvernement est ouvert. Quand j'ai des possibilités, des gens qui en parlent, je pose la question au ministre directement. Je dis, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes demandeur? Le ministre me dit, oui, nous sommes demandeurs, le président est demandeur. Et quand je pose le problème au président, le président également a eu beaucoup de propositions. Mais quand vous voulez, beaucoup de gens viennent rencontrer un chef d'État. On va faire ceci,
Monsieur le maire, vous n'avez pas besoin d'experts à l'extérieur pour monter un système de couverture maladie universelle. Vous avez des assureurs centrafricains, il y en a un qui est devant vous. Vous avez des médecins, vous avez des gens comme les professeurs Nali qui savent comment fonctionne des systèmes de couverture maladie universelle. Utilisez les ressources localement. Si vous ne le savez pas, je vous le dis.
As-tu fait voilà. Une offre à ton gouvernement?
Oh là là.
C'est la question que je pose au président de la République que tu connais, ton frère avec qui tu es tout le temps ensemble. Alors, donc, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as vu ton petit frère Somsé?
Non, je n'ai pas vu Somsé que je connais depuis plusieurs années. Mais je veux dire que la question de la couverture maladie universelle n'a pas besoin d'expertise extérieure pour être traité. Il y a des assureurs centrafricains, il y a des médecins dont certains, la spécialité est la couverture maladie, c'est-à-dire les problèmes de santé, les problématiques de santé publique, et qui peuvent ensemble...
Vous l'avez déjà évoqué. Malheureusement, le temps nous fait défaut. 30 secondes à chacun de nous pour comprendre tout ce que nous avons placé comme décor sur la situation. D'abord, on a pris seulement deux exemples pour voir, après l'indépendance de 62 ans, les politiques centrafricains, est-ce qu'ils ont failli à leur devoir en tant que tel? Monsieur Paul Christian Beninga, quelques secondes.
Alors, le concept, le verbe faillir est, de mon point de vue, très fort. Et on ne peut pas simplement dire que les politiques ont failli. Moi, j'ai dit toujours que la responsabilité de nos malheurs nous incombe, à nous tous. Ce n'est pas une question de nature, mais c'est une question de degré. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive à des degrés divers. Le problème de la RCA, et nous l'avons rappelé au plan structurel, au plan historique, nous avons eu une transition mal négociée. Ça a permis d'expliquer un certain nombre d'échecs, mais ça ne doit pas justifier...
d'accession à l'indépendance.
Oui, ça ne doit pas justifier la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on cesse de croire aux hommes. Il faut qu'on cesse de penser que c'est un homme, comme le président Di Martin a dit tout à l'heure, un homme providentiel, ça n'existera pas. Il faut croire aux institutions, mais il ne suffit pas de croire. Il faut renforcer les institutions, il faut donner un pouvoir réel aux institutions, et il faut qu'il y ait une vision. Aussi longtemps que nous n'avons pas un leadership visionnaire et des institutions fortes, nous allons nous retrouver toujours autour de cette table pour parler le même langage.
Le temps fait défaut, monsieur Ziguele, quelques secondes.
Oui, je partage absolument la même conclusion que le professeur Beninga, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas les hommes. Nous avons connu tout en matière d'hommes dans ce pays. Ce n'est pas les hommes, ce sont les institutions. Le péché mignon de la Centrafrique, du Centrafrique, excusez-moi, c'est d'avoir des institutions ad hominem.
Mais ce sont les hommes qui font des institutions.
Oui, ce sont des institutions qui sont façonnées par un individu par rapport à ses objectifs de pouvoir, pas des institutions qui doivent fonctionner par rapport à l'intérêt général. Et si vous devez retenir un seul mot de tout ce que je viens de dire, c'est que les Centrafricains, nous devons tous travailler collectivement pour repositionner l'intérêt général comme la règle numéro une en conduite de politique publique. Si nous arrivons à faire ça, on peut gérer très facilement les questions techniques, les questions de capital, les questions que j'appelle subsidiaires, infrastructurelles.
Monsieur...
La superstructure, ce sont les institutions qui doivent
ça,
être...
Ça, c'est socialiste.
Voilà.
Monsieur le maire.
Et je le revendique. Oui. Je suis socialiste. Oui. Je le revendique. Et c'est une vision... C'est une vision... Oui. C'est une vision... Progressiste, c'est une vision de progrès.
On donne la parole à monsieur le maire.
Je ne vais pas être d'avis avec mon jeune frère Beninga et le président Ziguele sur la question de l'homme. Vous savez, les institutions sont conçues par l'homme. Nous étions dans une discussion où on a mis un terme armée inter-ethnique ou bien armée républicaine. Mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans un texte. Si l'homme lui-même ne partage pas certaines valeurs, il ne pourra jamais appliquer les règles du jeu. L'homme doit intégrer cela dans ses habitudes.
Mais les règles du jeu, c'est l'institution.
Bien sûr. Et puis, cet arbre de confiance avec ses habitus, mais font que c'est l'homme qui est au centre. La confiance, c'est l'homme. Mais si vous n'avez pas quelqu'un qui pousse pour que vous ayez un repère je pense que ça ne vaut même pas la peine. L'homme compte, l'homme est important dans ce que nous faisons. Parce que l'homme, le contenu que l'homme a est important.
Absolument la même chose.
2022. Nous avons, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Nous avons, avec Martin Ziguele, Paul Cresson Beninga et Émile Raymond Gros Nakombo, passé en revue les difficultés qui minent le pays depuis 62 ans. L'émission était consacrée aux défis auxquels fait face la République centrafricaine après son accession à l'indépendance en 1960. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres, à tous ceux qui ont réagi. Toutes vos réactions écrites et orales ont été prises en compte. Le temps nous fait défaut. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne fête de l'indépendance et surtout, prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois. Au revoir et à la semaine prochaine.